Nous sommes actuellement dans une série sur la prière. On fait ça régulièrement en janvier, d'avoir comme ça une série de prédications sur la prière où on réfléchit sur la prière. C'est le bon moment, le premier mois de l'année, pour renouer le dialogue avec Dieu. Et comme ça, on étudie différents textes. La semaine dernière, Alain a réfléchi avec nous, avec des instructions qui nous viennent du Nouveau Testament, et en particulier de l'apôtre Paul. Priez sans cesse. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment le faire? Si vous avez raté la prédication, vous la retrouvez sur le site avec des conseils pratiques. La semaine prochaine, avec Laurence, on aura plutôt des exemples de prières tirées de l'Ancien Testament. J'ai hâte de voir ce que Laurence nous apportera dimanche prochain. Cette semaine, j'aimerais regarder avec vous un récit du Nouveau Testament où on voit la prière en action. On le retrouve dans le livre des Actes, les Actes des Apôtres. Alors, vous pouvez écouter ou suivre dans vos Bibles. Au chapitre 13, Actes des Apôtres, chapitre 13. Et alors, la lecture va être courte. On va lire les trois premiers versets. Actes, chapitre 13. Dans l'église qui était à Antioche, il y avait des prophètes et des maîtres. Barnabé, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et jeûnaient, l'Esprit-Saint dit « Mettez-moi à part Barnabé et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Jusqu'ici, la lecture de la parole. Trois versets. Trois versets simplement pour un événement majeur. Je ne sais pas si vous saisissez la portée de cet événement. C'est tout simplement le début du travail missionnaire de l'Église. Avant cet événement, l'Évangile se répand un peu par hasard, en tout cas par réaction à la persécution. Lorsque les chrétiens sont persécutés, ils s'enfuient et là où ils s'établissent, ils forment une église, c'est ce qui s'est passé à Antioche, mais il n'y a pas de volonté, de stratégie. Après cet événement, il y a une démarche missionnaire intentionnelle et c'est le début des voyages de Paul qui vont lui permettre d'aller jusqu'à Rome, jusqu'au bout du monde, ce qu'avait demandé Jésus. Ce qui m'intéresse, c'est de regarder avec vous dans ce récit quel est le rôle de la prière. Mais avant de regarder le rôle de la prière, on va regarder un peu plus qu'est-ce qui se passe exactement, quel est le contexte. Parce que je conçois et j'accepte que vous ne soyez pas des spécialistes du livre des Actes des Apôtres et de l'expansion de l'Église au premier siècle. Ça se passe à l'église qui est à Antioche. C'est écrit, nous l'avons lu. Cette église, c'est une église ancienne, une des premières églises. Elle se trouve à, j'ai regardé sur la carte, 560 kilomètres au nord de Jérusalem, sur la côte de la Méditerranée. Et c'est une église qui est issue de la diaspora, de la dispersion. Les chrétiens de Jérusalem ont été persécutés et ils se sont enfuis. Ils sont partis au nord, à Damas, en Phénicie, en Crète et à Antioche. Et cette église, elle est relativement connue, le livre des Actes en parle pas mal, en tout cas au début. Et elle a une particularité, c'est qu'elle est multiethnique. il n'y a pas seulement des juifs, des chrétiens d'origine juive échappés de Jérusalem qui sont là. Il y a aussi ce qu'on appelle des personnes de langue grecque issues d'autres ethnies. C'est une nouveauté ce qui se passe dans cette église et ce n'est pas forcément quelque chose de volontaire, il n'y a pas une mission spécifique auprès de ces populations, mais juste des membres de l'église, des chrétiens, on pourrait dire. D'ailleurs, la Bible nous dit que c'est à cet endroit, à Antioche, que pour la première fois on utilise ce mot chrétien, des chrétiens qui parlaient à leurs voisins, à leurs connaissances, et comme ça les gens intéressés sont venus à l'église et l'ont rejoint. Et c'est une nouveauté, ça secoue un peu le monde chrétien, et du coup l'église de Jérusalem envoie Barnabé pour aller voir si tout ce qui se passe est bien réglementaire. Ça explique la présence de Barnabé. C'est une église qui a un beau témoignage, un beau rayonnement. Et on voit, juste avant, ils viennent d'apporter un don à l'église de Jérusalem qui connaît une famine. C'est une église qui n'est pas centrée sur elle-même, mais qui a le souci des autres, le souci d'être généreux. Et de cette église, on connaît les responsables. Nous avons lu leurs noms. Le texte précise que dans cette église, il y avait des prophètes et des maîtres. Alors, les maîtres, c'est des maîtres comme à l'école, hein, des personnes qui vont enseigner le contenu de la Bible, enfin, surtout de l'Ancien Testament, puisque le reste, le Nouveau Testament, n'est pas encore écrit. En tout cas, c'est des enseignants, ceux qui connaissent Dieu, l'histoire, et qui sont capables d'expliquer. Et des prophètes. Les prophètes, ce n'est pas des gens qui prédisent l'avenir. Les prophètes, ce sont des personnes qui parlent au nom de Dieu, qui révèlent la volonté de Dieu à son peuple. Ce que je remarque, c'est que on ne nous dit pas qui est prophète et qui est maître, comme si les deux étaient un peu mélangés autour du ministère de la parole. La connaissance de la parole et la révélation de la volonté de Dieu vont de pair. Un peu comme ce que l'on vit, la prédication n'est pas un enseignement où on vient expliquer la Bible, mais aussi la révélation de la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Il y a 5 noms qui sont cités, certainement les responsables de l'Église. Et sur ces 5 noms, il y en a 2 que nous connaissons. Que nous connaissons bien parce qu'ils sont largement cités dans le Nouveau Testament et dans le Livre des Actes. D'abord, le plus connu, c'est Saul, ou Paul. Il va changer de nom bientôt. Et le deuxième, c'est Barnabé. Barnabas, dans certaines traductions. Je vais commencer par le deuxième. Barnabé, j'en ai déjà parlé, il est venu de l'église de Jérusalem et il a été envoyé dans cette église à Antioche pour voir ce qui se passait avec ces chrétiens d'origine grecque, d'origine païenne qui étaient là. Et certainement, il est resté dans cette église pour structurer et il en est devenu responsable, en tout cas pour un temps. C'est quelqu'un qu'on voit pas mal au début du livre des Actes. C'est quelqu'un qui s'appelle, c'est pas son vrai nom, Barnabé, il s'appelle Joseph. Barnabé, c'est son surnom, ça veut dire fils d'encouragement. Et c'est un surnom qu'il semble bien porter, puisque c'est quelqu'un qui encourage. On l'a vu au début du livre des Actes faire un don particulièrement généreux, un don financier particulièrement généreux, particulièrement marquant pour l'Église. Et c'est aussi le parrain de Saul. Le parrain parce que, après sa conversion, Saul était un persécuteur de l'Église, donc quand il est revenu à Jérusalem, les gens ont eu peur. Il essaye une nouvelle tactique, il essaye de se faire passer pour chrétien, pour nous infiltrer et pour mieux nous exterminer. Les gens avaient peur, mais Barnabé, lui, croyait que Dieu agissait. Et c'est lui qui a pris Paul, qui a été garant pour lui, qui l'a amené à l'Église, qui l'a parrainé, en quelque sorte. Quand même un ministère extraordinaire quand on y réfléchit. Qu'est-ce qui se serait, comment se serait passée l'histoire de l'Église si quelqu'un n'avait pas pris le risque de reconnaître le ministère de Saul et de le recommander à l'Église. Saul, justement, ce deuxième nom qu'on connaît plus sous le nom de Paul, en fait, il va changer de nom juste après cet épisode, au verset 10 du même chapitre, et à partir de là, on va l'appeler Paul. À ce moment-là, ce n'est pas encore le grand apôtre, celui qui a écrit tellement de lettres qu'on a dans le Nouveau Testament. C'est quelqu'un qui a connu une conversion spectaculaire alors qu'il était en route. Jésus lui-même l'a arrêté, il est apparu, il est tombé de cheval et sa voix a retenti pour l'appeler à son service. Il allait à Damas pour persécuter, il y allait pour évangéliser. Forcément, un ancien persécuteur qui évangélise, ses anciens copains, ils ont été un peu vexés. Ils se sont mis à le persécuter et il s'est enfui de Damas vers Jérusalem, là où Barnabé le prend en charge. À cette époque, on dit encore Barnabé et Saul. Plus tard, on parlera de Paul et Barnabé, maintenant Paul en premier. Ils marchent ensemble. Quelque part, il y a comme ce qu'on appelle aujourd'hui le discipulat. Barnabé a pris en charge Paul et l'enseigne. Et il l'a pris avec lui pour aller à Jérusalem amener cette collecte pour la famine. Et je disais, dans ce contexte, dans cette église, avec ces personnes, c'est un événement capital, un événement majeur de l'histoire de l'Église, l'envoi de la première équipe missionnaire. Avant, il n'y avait pas vraiment d'évangélisation. Avant, les chrétiens ne cachaient pas leur foi, ils témoignaient autour d'eux et l'Église grandissait dans un contexte favorable. Elle a grandi énormément à Jérusalem, mais on voit ici, dans un contexte plus serré, plus tendu, qu'elle grandit néanmoins à Antioche et ailleurs, dans les villes où les chrétiens se sont dispersés. Mais dans ce contexte d'opposition, c'est une progression lente. Après ça, il va y avoir une progression rapide avec une évangélisation intentionnelle, des voyages missionnaires dans le but d'implanter des églises. Et ce ministère d'implantation, il est raconté, documenté, raconté dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes, dans les lettres de Paul. On voit Paul qui parcourt la Méditerranée, qui implante des églises, qui en fait le suivi. Et ce réseau solide a permis de vraiment lancer l'Église. Mais ce jour-là, rien n'est encore fait. Personne n'imagine le fruit qu'il peut y avoir à mettre à part Barnabé et Paul pour les envoyer. Et ce jour-là, il y a la perspective d'une perte importante, je crois, pour l'Église d'Antioche. 5 responsables, 2 qui partent. C'est pas rien. Je ne sais pas comment vous voyez les choses. Si on prend le temps d'imaginer, ça fait quand même un trou dans la structure de l'Église. Ça met l'Église en danger d'envoyer comme ça deux de ses responsables. C'est une grosse décision. Comment a-t-elle été prise? Le texte biblique nous dit, l'Esprit Saint dit, mettez à part Barnabé et Saul pour le service auquel je les ai appelés. L'Esprit Saint dit. Je ne sais pas comment vous recevez cette parole. Moi, elle me laisse songeur. quand on discute ensemble, combien affirme l'Esprit Saint m'a dit ? Combien de fois avons-nous entendu l'Esprit Saint de façon distincte ? Et pourtant, quand on lit la Bible, Dieu parle en permanence. Il parle à ceux qui croient en lui. Et il donne l'Esprit de Jésus, l'Esprit que Jésus a envoyé justement pour être avec nous et nous parler. Comment faire ? Comment faire pour l'entendre, effectivement, comme l'Église l'a entendu ce jour-là ? On dit régulièrement que la prière, c'est un dialogue avec Dieu. Malheureusement, la prière, c'est souvent nous qui venons et qui effectuons nos demandes. Est-ce que nous dialoguons vraiment avec Dieu ? Est-ce que nous l'écoutons réellement ? En voilà des questions. Il y a un mystère comme ça autour de l'écoute de la parole de Dieu. Le texte nous pose aussi des questions quand on le regarde. Il ne dit pas forcément clairement ce qui s'est passé, comment ça se passe. L'Esprit Saint dit, comment cela s'est-il passé ? Est-ce qu'il y a eu une parole intelligible, un son qui est passé par, qui a retenti, qui est passé par les oreilles pour arriver jusqu'à ces personnes ? C'est possible ? C'est possible. Au chapitre 9, on voit la conversion de Paul, on voit il y a cette voix qui retentit et que tout le monde peut entendre, non seulement Paul à qui elle était destinée, mais ceux qui l'accompagnaient. C'est ce que nous dit le récit biblique, au livre des Actes, chapitre 9, verset 7. Et là, c'est précisé explicitement, et ce n'est pas dit ici. Est-ce que c'était la même chose ? Ou est-ce que c'était une conviction tellement forte ? Il y avait la conviction que c'était Dieu qui parlait. Je lis actuellement un livre extrêmement stimulant par Dallas Willard qui traite de ce sujet « Entendre la voix de Dieu » et qui pose cette question « Dieu, le Créateur, a-t-il besoin de passer par le monde matériel, par des sons, par des ondes qui vibrent pour parler au cœur qu'il a créé ?» Peut-être peut-il aussi parler directement, l'auteur Dallas Willard en est convaincu, je le crois également. D'autres questions autour de ce texte, est-ce que cette parole de l'Esprit-Saint, c'était un événement ou est-ce que ça s'est fait progressivement, comme une conviction qui grandit ? Est-ce que cette parole, elle est arrivée à la communauté tout entière pendant qu'ils célébraient le culte ? Est-ce qu'elle est arrivée aux cinq responsables ? Est-ce qu'elle est arrivée à l'un d'entre eux et qu'il l'a partagée ? Tout ça, on ne le sait pas. Par contre, il y a quand même quelques détails sur lesquels on peut se pencher pour tirer des choses qui, je pense, nous sont utiles. Il est écrit au verset 2, pendant qu'ils célébraient le culte et jeûnaient. Alors, ça, c'est la traduction que j'ai lue. Il y a plusieurs traductions qui a un jour, alors qu'ils célébraient le culte. J'ai regardé dans mon Nouveau Testament grec, je ne vois pas cette mention de un jour. Est-ce qu'ils pensent à un jour particulier où ils célébraient le culte ou est-ce que c'est sur une durée ou une durée où ils célébraient le culte ? En tout cas, je pense que là, on sera d'accord pour dire que l'action de jeûner, c'est forcément sur une durée. Parce que si c'est un instant T, là, on est tous en train de jeûner, jusqu'à midi à peu près. Jeûner n'a de sens que si on le fait sur une durée. Jeûner. On en a parlé dans les groupes de maison, parce que quand on a fait le sermon sur la montagne, et quand on a fait un retour sur ce qu'on a pu vivre dans les différents groupes de maison, plusieurs ont dit, c'est marrant, la prière on fait, mais le jeûne on fait assez peu. Jeûner, c'est se priver de nourriture dans un but religieux. C'est pratiqué dans de nombreuses religions, c'était pratiqué dans le judaïsme, et on voit ici que dans le jeune christianisme, c'est pratiqué. C'est pas une pratique magique qui parce qu'on l'a fait, déclenche quelque chose de spécial qui fait que Dieu parle parce qu'on a jeûné. C'est plutôt se placer dans une attitude d'attente. Attente pour recevoir la parole de Dieu. S'attendre à ce que Dieu parle. Lorsque je me prive de nourriture, je dis à moi-même, à mon corps, je préfère écouter Dieu, être avec Dieu, que de manger, que d'avoir une vie confortable. Je préfère souffrir de la faim et être près de Dieu. Jeûner comme une attitude d'attente. Et à côté du jeûne, il célèbre le culte. Il reste actif dans leur vie chrétienne. C'est pas juste se poser et jeûner en attendant que Dieu parle. C'est être dans l'attente, mais continuer à l'adorer, à se tourner vers lui de façon régulière. Il jeûnait, il célébrait le culte et jeûnait. Autre chose que je relève dans ce court texte, c'est la mention de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. L'œuvre à laquelle Barnabé et Saul sont appelés. Alors cet appel, c'est celui de partir en voyage missionnaire. Il n'y a pas encore eu de réflexion stratégique sur le ministère d'implantation de l'Église. Commence par partir. Ils vont partir, explorer, voir ce qui se passe ailleurs. Et la volonté de Dieu se révélera pas à pas. Mais cette mention, l'œuvre à laquelle je les ai appelés, en plus, avec le verbe au passé, me donne l'impression que Barnabé et Saul savaient de quoi il s'agissait. Ils avaient en eux ce désir de partir. Ils avaient cette idée. Ils avaient dû la partager, en parler avec les autres. Ce serait bien qu'il y ait des gens qui partent, voir ailleurs s'il n'y a pas d'autres personnes qui peuvent se tourner vers Dieu. Il devait avoir cette idée qui trottait dans la tête. Et là, l'Esprit Saint vient dire, c'est pas leur volonté, c'est pas leur idée. C'est ce que moi je veux. Mettez-les à part pour qu'ils y aillent. À un moment, cette idée qui était dans l'air, elle prend sens. Et on passe à l'action. Je note aussi dans le texte qu'il y a une étape, je dirais post-écoute. Après avoir reçu cette parole, ils prennent le temps du jeûne et de la prière. Ils restent dans cette attitude d'écoute, d'attente de Dieu, comme pour s'assurer que c'est la bonne décision. Peut-être que c'était tellement extraordinaire comme révélation, comme conviction qu'il y avait besoin de s'en assurer. Il ne s'agit pas de foncer, mais d'être sûr d'être dans la volonté de Dieu. Et enfin, il leur impose les mains et les laisse partir. Imposer les mains, encore un signe qu'on fait assez peu, et ce n'est pas non plus un signe magique. Imposer les mains, c'est un signe de solidarité. La Bible du Semeur nous dit, par ce geste, ils reconnaissent l'appel de Dieu. Ils consacrent Paul et Barnabé à l'œuvre correspondante, et en imposant les mains, ils s'associent à leur mission. C'est un geste de solidarité. Et enfin, ils sont prêts à les laisser partir. L'œuvre du Seigneur avance, il sera avec eux, il sera avec nous, et restons. Ils ont cette conviction. J'insiste sur le fait que ce récit est une étape majeure de l'histoire de l'Église. Il y a un avant et un après cet envoi. Et au moment où ça se met en route, ce n'est pas la volonté humaine. Ce n'est pas un désir, ce n'est pas un stratège qui s'est dit « il faut que l'Église s'étende, il faut que nous recherchions la croissance ». C'est Dieu qui a intervenu pour dire à son Église la direction à prendre pour faire sa volonté. Cette volonté qui était déjà là, révélée par Jésus. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Rappelez au début du livre des Actes, à Jérusalem, en Judée et en Samarie, jusqu'aux extrémités du monde. Et dans ce moment, l'Esprit vient parler pour dire où est la suite. Et nous, nous aussi, nous avons la même mission et nous aussi, nous aimerions avoir la direction de notre Dieu à travers l'Esprit Saint. Comment pouvons-nous nous mettre à son écoute et écouter ce qu'il a à nous dire? Je le disais, on ne sait pas trop comment l'Esprit Saint a parlé d'après ce texte. Mais on voit comment l'Église était à son écoute. Et de cette écoute, j'aimerais tirer trois principes que je pense qu'on peut appliquer dans notre vie. Le premier principe, c'est cette position d'attente, de se mettre en attente. Et elle est particulièrement mise en avant par le jeûne. Je le disais, le jeûne n'est pas une pratique magique qui force Dieu à plus nous parler. Le jeûne, c'est une discipline. C'est dire à nous-mêmes la prière à laquelle je veux me consacrer est plus importante que mon confort. Et je suis prêt à le sentir dans mon corps et je suis prêt à sentir mon corps me le rappeler chaque fois que j'ai une petite faim. C'est parce que la prière plus importante que moi, pour moi, en ce moment. T'écouter, ta parole, passer du temps avec moi, vaut mieux que mon confort, Seigneur. Et la parole de Dieu ne vient pas en récompense, mais nous l'entendons grâce à notre écoute. Pratiquement, comment faire si on n'a pas l'habitude de jeûner? On peut effectivement se priver de nourriture si on n'a pas l'habitude pendant un jour, deux jours. On peut aussi le faire de façon partielle. Je connais des chrétiens qui, dans une période de jeûne, ne mangent pas entre 6h et 18h. Ils ressentent la faim tout en ayant ces repas qui leur permettent de tenir quand ils n'ont pas l'habitude. On peut aussi jeûner d'autres choses, mettre d'autres choses de côté. Dans l'Épître aux Corinthiens, Paul dit qu'il est possible de s'abstenir de relations sexuelles d'un commun accord pendant un temps court, parce que c'est important, mais en tout cas possible de dégager du temps comme ça pour ensemble prier. À notre époque, on peut le faire en diminuant son temps d'écran. Il y a quelques années, on disait à la télévision, je ne sais pas si on regarde toujours la télévision, mais en tout cas les écrans, on les regarde bien. Est-ce qu'on est capable de faire un jeûne d'écran pendant une semaine? Un jour? Se mettre à l'écoute. Et plus généralement, je pose cette question, quelle place est-ce qu'on laisse dans nos vies à l'écoute? Et quelle place est-ce qu'on fait en Église à l'écoute? J'aimerais vous signaler cette réunion de prière du dimanche matin qui n'a pas pour vocation de dresser devant Dieu un catalogue de sujets, mais de se mettre justement à l'écoute et de prier dans la volonté de Dieu que nous découvrons ensemble. Se mettre dans une attitude d'attente. Deuxième principe, la célébration. C'est pendant qu'ils célébraient le culte que l'Esprit Saint leur a parlé. Je suis Je suis surpris, c'est vraiment sans doute le point qui m'a le plus surpris quand j'ai lu ce texte, parce que l'Esprit-Saint ne parle pas quand ils se mettent dans une attitude très longue d'attente, il parle pendant le culte. Ça m'a fait penser à cette prière, le Notre Père, qu'on a étudié à nouveau dans les groupes de maison autour du Sermon sur la montagne. Vous savez comment la prière commence, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. La prière, c'est chercher la volonté de Dieu, entrer dans la volonté de Dieu. C'est ça le plus important. Rechercher la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est sa gloire. Il n'est pas possible d'entendre Dieu sans rechercher sa volonté, sans rechercher sa gloire. Et le culte que nous rendons, c'est un moment qui nous réoriente. Vous savez comment nos cultes sont construits en trois temps. On prend conscience de la présence de Dieu, on prend conscience de la communauté que nous formons les uns avec les autres et ensemble, nous nous mettons à son écoute. Une fois par semaine, ensemble, on remet les priorités dans l'ordre. On s'éloigne de notre quotidien, on s'éloigne des préoccupations et des soucis. Et une fois par semaine, on vient au culte et on lâche les commandes de nos vies pour être conduit par un animateur de louanges qui a choisi des prières que nous allons chanter ensemble, être conduit par un président qui attire notre attention sur ce que Dieu fait parmi nous, être conduit par un prédicateur qui s'est mis à l'écoute et qui partage ce qu'il a reçu. Je crois que ce n'est pas un hasard si, dans le texte que nous avons lu, prophète et maître sont cités, sont mentionnés. Parce que la parole et le ministère de la parole a particulièrement d'importance dans l'écoute que nous avons de Dieu et de l'Esprit-Saint. Et je crois qu'il y a pour nous une invitation à prendre soin de notre participation au culte. On est une église particulièrement active. Il y a des équipes pour l'accueil, pour le CBJ, pour la crèche, pour la musique, pour les techniques. Il y a un planning pour la louange, la présidence, la prédication. Il y a un grand nombre de personnes qui interviennent et ça rend gloire à Dieu. Mais on peut aussi parfois se perdre dans le service. Est-ce que nous faisons du culte un temps d'écoute? Un temps où nous venons écouter l'Esprit-Saint. Finalement, troisième principe d'écoute que je relève, c'est la dimension communautaire de l'écoute. Si l'Esprit-Saint a parlé pendant qu'il célébrait le culte, l'Église devait être rassemblée. L'Esprit-Saint n'a pas parlé à un qui allait voir les autres. Et c'est d'ailleurs ce qui est beau avec la nouvelle alliance en Jésus-Christ. C'est qu'il n'y a pas un intermédiaire entre les croyants, le peuple de Dieu et Dieu, mais que l'Esprit est en chacun. Quand on se regroupe, Dieu nous parle. Il y a une double dimension. À la fois dans l'Église, il y a des ministères particuliers. Parler des prophètes et maîtres de ce ministère de la parole, ils ont un rôle. Les prophètes, ils ont un ministère reconnu. Ils entendent la voix de Dieu pour le peuple de Dieu d'une façon particulière et ils transmettent son message et sa sagesse. Et c'est pas un ministère qu'on réclame, c'est pas des prophètes autoproclamés. C'est des ministères qui sont reconnus par l'Église. Et d'ailleurs, l'Église est invitée à examiner ce qui est dit et retenir ce qui est bon. Paul le dit aux Thessaloniciens. En ce qui concerne les prophéties, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Et justement, dans cet examen, les maîtres ont une utilité. Ils connaissent la Bible, ils connaissent la parole, ils permettent d'évaluer, de contrôler que ce qui est dit est en phase avec le reste de l'enseignement. Écouter Dieu, ce n'est pas réciter des leçons, ce n'est pas de la connaissance, mais la connaissance fait partie du processus. Donc des ministères particuliers donnés à l'Église, mais également la présence de la communauté tout entière. La communauté qui est là pour reconnaître les dons, qui est là pour évaluer les paroles, et qui est là aussi pour être présente. Cette présence, elle est importante. Et peut-être que si nous en doutions, nous en retrouvons sa valeur depuis que nous sommes dans cette période troublée autour de la situation sanitaire et où on a pu pendant un temps ne pas se voir. Être ensemble, c'est important. Les décisions majeures dans l'Église ne se prennent pas de façon déconnectée dans une tour d'ivoire. Je me souviens d'un professeur de prédication qui nous disait que quand il prépare ses prédications, il a sur son bureau une photo de la communauté. Et il disait, ça m'aide de me souvenir à qui je parle. Quand je suis tenté d'être un peu rentre-dedans, je regarde la photo et je vois les visages, je vois à qui je m'adresse et je redeviens plus humain, disait-il. Il est important d'être au milieu de la communauté et je pense que la meilleure preuve, c'est celle de Jésus lui-même. Il s'est fait homme. Dieu n'est pas resté dans le ciel pour envoyer son salut. Il s'est fait homme, il est venu sur terre et il a marché parmi nous. Il a vu, touché, senti, écouté. Il était là. C'est ainsi que Dieu se manifeste. Et c'est une invitation pour nous à prendre conscience de l'importance de la communauté. Et là, on rentre dans une séquence où on va bientôt avoir notre assemblée générale. L'assemblée générale de l'Église, ce n'est pas une chambre d'enregistrement de choses qui ont déjà été décidées par le Conseil. L'assemblée générale, c'est un lieu d'écoute, un lieu d'attention les uns aux autres. On vient avec nos idées, mais on repart avec le fruit des échanges. C'est un lieu de réception en commun de la parole de Dieu. Trois principes, donc, que j'aimerais retenir pour avoir une attitude d'écoute. L'attente, la célébration et la communauté. Et elles peuvent être mises en œuvre, et je dirais même, elles doivent être mises en œuvre si nous voulons entendre Dieu. Car l'Esprit Saint parle encore aujourd'hui. L'Esprit Saint sait ce qu'il veut pour nous, pour son Église, pour nous aussi individuellement. Il nous parle. Savons-nous nous mettre à son écoute? Trois versets. Trois courts versets pour un événement majeur qui a changé la face du monde. Ils n'ont pas peur des mots. Trois petits versets, discrets. Et ça me fait penser au royaume de Dieu, qui lui aussi est si discret. On dit du serviteur de l'Éternel, qu'il ne lèvera pas la voix, qu'il ne se fera pas entendre dans les rues. Il parle à ceux qui prêtent l'oreille. Voulons-nous être de ceux qui prêtent l'oreille? Voulez-vous être de ceux qui prêtent l'oreille? Voulez-vous entendre Dieu? Jésus a envoyé son esprit. Et ceux qui marchent avec Jésus, ont cet esprit. Nous pouvons l'écouter, être dirigés, conduits par lui. Mettons-nous à son écoute. Je rappelle les trois principes. Une attitude d'attente. On peut manifester à travers le jeûne, faire de la place dans notre vie pour l'écoute. La célébration. Mettre Dieu à la première place. Vivre le culte et vivre dans le culte l'écoute. Et puis, la communauté, pour recevoir, pour avoir une réponse pertinente nous concernant, vivre la communauté. Nous en avons besoin en Église, nous en avons besoin individuellement également. Je t'invite à un temps de silence et je conclurai par la prière. Seigneur, nous te prions parfois, viens nous parler. Mais nous voulons aussi te demander de nous aider à t'écouter. Aide-nous, Seigneur, à calmer le rythme de nos vies, à nous écarter du bruit ambiant qui nous distrait. Aide-nous à nous mettre à ton écoute et à rechercher ce que tu as à nous dire. Seigneur, tu fais de grandes choses avec ceux qui se mettent à ton écoute. La suite du récit, tout le ministère de Barnabé et de Paul le montre. Nous te prions, Seigneur, que notre ministère, notre action pour toi puisse être féconde comme celle de ceux qui nous ont précédés. Et nous te prions, Seigneur, qu'en toute chose, la gloire te revienne. Sois glorifié, Seigneur, notre Dieu. Au nom de Jésus. Amen.